Moi, je me suis enfuie avec mon bébé dans la nuit du 5 au 6 juin 2020. Et j'étais restée 10 ans dans une relation compliquée, sans me rendre véritablement compte de l'impact de ce que je vivais déjà sur moi et de ce que ça pouvait engendrer sur autrui.
Matrioshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast des Matrices. Aujourd'hui, nous accueillons Sarah Barrou, que j'ai le plaisir de recevoir, cette auteure du livre 125 et des milliers, un livre paru aux éditions HarperCollins. Et dans cet ouvrage, ce sont 125 personnalités, les plumes, les ambassadrices, qui racontent l'histoire de 125 victimes de féminicide. Pourquoi 125? Eh bien parce que en France, une femme est assassinée par son compagnon ou son ex-compagnon tous les deux jours et demi, soit à peu près en moyenne 125 femmes par an. On parle toujours de ce nombre, 125, mais derrière cela, il y a des femmes, il y a des visages, il y a des histoires. Et donc c'est tout l'objet de ce travail que vous avez mené, Sarah Barrou. Bonjour. Au travers de votre analyse, mais aussi au travers de votre parcours de femme touchée par la violence, eh bien vous avez cherché à réhumaniser ces histoires, rendre vie à ces femmes qui ont été victimes de féminicide, vous leur redonner une singularité, une identité propre au-delà de ces fameuses statistiques. Mais alors, Sarah, j'aimerais commencer par cette question. Qu'est-ce que cette violence révèle selon vous finalement ?
On est encore dans une société où on peut accepter que l'amour fasse mal, où on peut accepter de subir pour être aimé, de subir pour accomplir un destin de femme, se marier, être en couple, avoir des enfants. Et ça veut dire aussi qu'il y a des hommes pour qui c'est acceptable de considérer la femme comme un bien que l'on possède.
Je l'ai dit en préambule, vous avez vous-même été touchée par cette violence dans votre intime. Mais pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre ?
Moi, je me suis enfuie avec mon bébé dans la nuit du 5 au 6 juin 2020. Et j'étais restée 10 ans dans une relation compliquée, sans me rendre véritablement compte de l'impact de ce que je vivais déjà sur moi et de ce que ça pouvait engendrer sur autrui. Et lorsque je me suis retrouvée à vivre chez mes parents quelque temps, j'ai commencé à prendre conscience déjà de ce que j'avais vécu et à essayer de savoir si j'étais folle, s'il y en avait d'autres, des personnes comme moi, qui avaient grandi finalement avec toutes les cartes en main et qui n'avaient pas réussi à avoir une vie à la hauteur de leurs rêves. Quand je dis toutes les cartes en main, ça veut dire que j'ai pas grandi dans une famille de millionnaires, mais j'ai un père médecin, j'ai jamais manqué de rien, j'ai fait de longues études. Donc dans ma tête, j'étais pas concernée par les stéréotypes qu'on se fait des femmes victimes, ce qui était ma première erreur. Et donc pendant des années, je n'ai pas osé admettre ce que je vivais parce que tout simplement, ça pouvait pas être moi. Et lorsque j'ai cherché si tout simplement il y en avait d'autres, t'es comme moi, j'ai rien trouvé. Je trouvais juste les décomptes de victimes de féminicide. Et là, je me suis dit, mais si ça s'était mal terminé pour moi, ça aurait été une double peine pour ma famille que non seulement je ne sois plus là, mais qu'ensuite je sois considérée comme un nombre, un numéro par la société que le suivant chasse.
Et donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment, un déclic, un moment donné, qui fait qu'on se dit, voilà, on peut fuir l'homme violent. Et comment faire ?
Dans mon cas, et j'ai appris par la suite que c'était souvent le même schéma, c'est la naissance de ma fille, où finalement je voyais à travers son regard ce qu'elle voyait de moi. Voilà. Et l'image que je lui renvoyais me terrifiait, non pas la violence qu'elle voyait, mais j'étais terrifiée à l'idée de voir grandir devant moi une future victime. Voilà. Et je me disais, mais si elle considère que c'est normal de se faire menacer de mort parce qu'on a laissé 3 miettes de pain sur la planche à découper, c'est quoi son avenir ? Juste avant, je me suis dit, bon ben moi, je ne vais pas lutter contre les statistiques. Une femme qui meurt tous les deux jours et demi, ça veut dire en moyenne 125 par an. Donc je vais garder ce chiffre. En revanche, je me donne pour mission de l'humaniser et donc de retracer l'histoire et la personnalité surtout de 125 femmes victimes de féminicide.
Donc vous avez rassemblé 125 témoignages. Comment est-ce que vous avez travaillé pour réussir à obtenir toutes ces histoires, à parler aux familles, à... voilà, quel travail a été fait derrière ?
Le travail, il a d'abord été d'identifier les victimes, parce qu'aujourd'hui, les médias continuent de reprendre finalement les arguments de défense des agresseurs. Il est devenu fou. Il voulait qu'elle l'aime, c'est il dans les articles. Et finalement, la part sur la personnalité de la femme, elle est très 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 minime. Généralement, il y a un prénom, il y a le lieu de la mort et pas grand chose d'autre. Donc la grande difficulté pour moi, ça a été de les identifier déjà, ces femmes, de retrouver leur nom de famille, de retrouver l'endroit où elles habitaient, parce qu'elles ne sont pas forcément mortes à l'endroit où elles habitaient. Et puis surtout, de retrouver leur famille, parce que je ne voulais surtout pas de discours qui ait pu être transformé. Je ne voulais pas qu'il y ait de médias entre les familles et moi. Donc là, entre le moment où on retrouve un prénom sur Internet et celui où on obtient le numéro de téléphone portable de la maman de la victime, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de recherches. J'ai demandé de l'aide à deux détectives qui ont refusé en me disant que c'était pas possible, en tout cas pas sur un nombre comme ça. J'ai mis 2 mois et demi à retrouver les 2 premières familles. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de ce projet que les détectives avaient peut-être eu raison, parce que j'étais extrêmement fière quand j'étais arrivée à 30. Et je me suis dit, mais entre 30 et 125, ça paraît pas beaucoup quand on en parle comme ça, mais c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc c'est énorme. Donc là, le premier travail conséquent, ça a été ce travail d'enquête où j'ai cherché sur Internet les faire part de décès, j'ai appelé les pompes funèbres, j'ai appelé les églises, j'ai appelé tous les lieux de culte, j'ai appelé les avocats, j'ai appelé... Enfin voilà, j'ai écrit, je sais pas, peut-être 3000 mails. Enfin, c'est énorme.
Au-delà de ça, qu'est-ce qui a été important pour vous dans ce cheminement ?
Ce qui était important pour moi, c'était de créer un lien. Voilà, de créer un lien et d'avoir le regard des personnes qui ont le plus aimé celle qui n'est plus là, qui connaissent le plus d'anecdotes et qui en tout cas sont témoins du décalage entre la petite fille qu'elle était et la femme qu'elle est devenue. Il y a un chapitre comme ça, c'est le deuxième chapitre de mon livre qui s'appelle « Croquis-nous coupables ». Parce que dans ce livre, il y a 12 chapitres où je raconte ce que j'ai compris de mon histoire, des portraits et des interviews de témoins, bien souvent des experts. Donc c'est à la fois un livre très personnel, un récit, et à la fois un livre collectif. Et dans ce chapitre, Croquis-nous coupables, je raconte que j'avais peut-être peur de partir parce que, en étant enfermée dans ce qu'il attendait que je sois, j'avais pas à m'affronter moi-même et surtout à affronter la petite fille que j'avais déçue en moi. Et la période où je suis partie, j'étais donc chez mes parents, il y avait des photos de moi enfant partout. Et j'étais dans un sentiment, j'étais un peu galvanisée parce que je retrouvais une forme de liberté, mais j'étais dans une tristesse infinie parce que je devais me confronter à cette petite fille pleine de rêves, de liberté, d'envie de vivre un amour magnifique que j'avais laissé tomber. Et je me suis rendu compte que la faille narcissique, qui est souvent à l'origine de l'acceptation des mauvais traitements, elle avait commencé avec elle, pour des raisons peut-être anodines. La naissance d'un deuxième enfant, souvent, sans que ce soit la responsabilité des parents ou quoi, enfin, il n'y a rien de plus commun que d'avoir un petit frère ou une petite sœur, n'empêche qu'on se dit qu'on n'a pas suffi. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Et puis plein d'autres, anecdotes personnelles. Il suffit qu'on ait un petit frère ou une petite sœur malade ou qui doit subir un petit traitement ou quoi, pour qu'on se sente moins important. Enfin bref, en tout cas, ma faille à moi narcissique a commencé avec Croquis-nous. à commencer avec le rôle que je me suis cru attribuer enfant de sauveuse dans ma famille et que j'ai pas réussi à remplir. Et donc voilà, j'avais l'impression que je devais lui rendre des comptes. Et c'était une période très difficile à ce niveau-là.
Et donc je le disais en préambule, vous avez fait appel à 125 plumes pour prendre possession en fait de ces interviews que vous aviez faites et pour écrire le portrait de ces femmes. Et parmi les plumes, il peut y avoir Isabelle Carré, Delphine Orvilleur, Valérie Trierweiler, Horatica, Laila Slimani, Mamouz, hein, Julie Mamoumani, ou Elsa Wolinski, enfin bref, 125. Pourquoi est-ce que vous leur avez demandé d'écrire à elles ?
Je me suis dit que je voulais rendre à chaque femme une identité propre, une singularité, enfin, la même que ce qu'on est dans la vie, en fait. On n'est pas, y a des vies derrière les statistiques et on est chacun avec nos aspérités. Je n'aime pas parler de qualité de défaut, ce qui est une qualité pour les uns est un défaut pour les autres et réciproquement. En revanche, on est tous spéciales, du moins pour ceux qui nous entourent. Et je voulais garantir à chaque défunte une unicité. Et très vite, je me suis rendu compte que si j'écrivais moi-même tous les portraits, ce qui était mon intention au départ, je n'y arriverais pas. Je ne peux pas me réinventer 125 fois. Je ne peux pas même avoir de la place en moi pour défendre corps et âme 125 personnes. Ce n'est pas possible, en tout cas pas en même temps. Donc, je me suis dit, et c'est là que j'ai aussi pris conscience qu'on n'est rien tout seul, que la société est importante pour garantir la société. La seule façon que j'avais de pouvoir faire ça, c'était de confier chaque portrait à une personne différente. Et si possible, quelqu'un qui ait la possibilité, une aura suffisante, une reconnaissance suffisante dans l'agora pour porter le plus fort possible cette voix. Et du coup, je les ai appelées des ambassadrices, parce que pour moi, elles sont les ambassadrices d'une personne qui n'est plus là. Voilà, donc je voulais qu'elles se sentent complètement investies de ce rôle. Et j'ai réfléchi longtemps à la façon dont j'allais procéder pour ça. Et de la même manière que je ne voulais pas qu'il y ait de médias entre les familles et moi, je voulais qu'elles ressentent ce que moi j'avais ressenti en interviewant les familles. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis malvoyante, moi, ça se voit pas beaucoup, mais du coup, depuis des années, j'ai du mal à lire. J'écoute plutôt des livres audio. Et donc, ça fait des années que je me rends compte du pouvoir de l'audio, où on a toutes les émotions dans les voix et à la fois l'imaginaire qui travaille. Donc, j'ai enregistré en audio les 125 interviews. Et c'est cet enregistrement que j'ai envoyé à chaque fois aux rédactrices qui se sont retrouvées finalement plongées dans l'univers d'une famille en deuil. Donc il y en a qui ont renoncé, hein, parce qu'elles avaient dit oui au départ, et puis quand elles se sont retrouvées face à ça, faut du courage quand même. Il y en a qui ont mis plusieurs mois à écouter l'audio jusqu'à la fin. Je leur avais quand même envoyé un article pour qu'elles sachent comment ça se termine, mais la consigne d'écriture, c'était ne parlez pas du drame. Il faut raconter qui elle était, pas comment elle est morte. Et la forme était libre, il fallait juste que ça tienne sur deux pages.
Et ces femmes auxquelles vous vous êtes adressées pour écrire les histoires, ces 125 plumes, comment est-ce que vous les avez choisies ?
Alors, il y a eu différentes sources, de recherche. Il y a déjà des gens qui ont contribué, moi, à ma reconstruction, qui pour moi était essentielle. Il y a la personne avec qui j'ai travaillé pendant des années et qui m'a aidée à prendre conscience de ce que je vivais. Il y a la première éditrice qui m'a tendu la main. Enfin, des femmes qui ont eu un rôle. Des femmes que j'ai lues, tout simplement, et qui m'ont aidée aussi. Et puis, des femmes de l'entrepreneuriat. Pareil, avec qui j'avais un lien. En fait, je voulais qu'il y ait un lien affectif avec moi, tout simplement, ou un lien où affectif avec la personne que je racontais. C'est-à-dire que si les mamans me parlaient de telle ou telle femme dans l'interview, j'essayais de m'en rapprocher. Voilà, quand je demandais, je posais des questions assez anodines en fait. C'était quoi son plat préféré? C'était quoi son moment de l'année préféré? Si vous deviez me raconter une anecdote où vous vous êtes dit ah ben ça, c'est sûr, c'était elle. C'était quoi? Et là, je leur donnais un exemple. Je leur dis, moi, ma mère, quand on lui demande c'est qui Sarah, immanquablement, elle raconte la fois où à 2 ans, je lui ai fait tout un sketch parce que je voulais des sandales dorées en plein hiver et qu'on a fait 10 magasins pour trouver des sandales dorées. Bon, ben voilà, j'étais déjà obsessionnelle à cette époque et elle a l'impression qu'elle a tout raconté quand elle raconte ça. Bon, effectivement, il n'y a que les proches qui connaissent ce genre de choses.
On entend bien hein, la volonté de faire ressortir la singularité de chacune des histoires des personnes qui ont été assassinées. Mais dans le même temps, est-ce que lorsque vous regardez de façon un peu globale tout ça, Sarah Baruch, est-ce qu'il y a une unité qui ressort dans ces différents récits de vie? Et finalement, qu'est-ce qu'elles ont de commun, toutes ces femmes victimes?
Alors, on voit quelque chose qui, moi, m'a terrifiée et je donne des conclusions à la fin. C'est ce besoin d'être aimé à tout prix. On est élevé dans l'idée qu'on ne sera femme que lorsqu'un prince viendra nous sauver. Et je fais toute une analyse comme ça du syndrome de la princesse. On ne se rend pas compte nécessairement de l'impact de tout ça parce que déjà, on donne un rôle aux hommes qui est difficile pour eux aussi, parce que quand on est élevé à devoir sauver, à devoir dominer, à devoir combattre toute la famille pour posséder, c'est une identité qui n'est pas simple non plus à appréhender. Et puis lorsque nous, on attend d'être sauvés pour devenir enfin femme, enfin reine, on oublie aussi que la reine, finalement, elle détrône sa mère et elle empêche ses sœurs de devenir reines. Donc, on lutte aussi contre notre condition de femme. Voilà. Donc oui, ce que j'ai remarqué, c'est cette espèce de romantisme tel qu'il nous a été inculqué. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes dont les films préférés étaient des Walt Disney. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai. Des films romantiques, des femmes qui voulaient sauver l'homme avec qui elles étaient. Donc voilà, beaucoup d'infirmières dans le syndrome. Beaucoup de femmes qui voulaient être aimées. Et surtout, finalement, des femmes très fortes. C'est-à-dire qu'elles sont souvent tuées quand elles décident que c'est terminé. Le féminicide n'arrive pas quand la femme est totalement soumise. Le féminicide arrive quand la femme part et qu'elle ne veut plus être l'objet de possession de celui qui croyait la posséder pour toujours. C'est systématique. Je me suis rendu compte aussi qu'on avait une fausse idée de la violence. Que dans la plupart des cas, les violences physiques ne sont arrivées que le jour du féminicide. Il y avait eu de l'emprise, il y avait eu de la violence psychologique qui avait enfermé les femmes dans un statut d'objet, mais pas nécessairement de bleu. Et aujourd'hui, dans la société, lorsqu'on veut parler des femmes victimes de violences, déjà, moi, quand les personnes parlent de ce livre, elles disent « ça raconte les femmes mortes sous les coups de leur mari ». Elles ne sont pas absolument pas toutes mortes de coups. Et puis, elles ne sont absolument pas toutes victimes de coups avant d'être mortes. Donc, c'est faux. Et moi-même, j'ai carrément eu des journalistes qui m'ont dit « Non, bon, d'accord, tu étais dans une relation difficile pendant 10 ans, mais tu t'es fait cogner à partir de quand ?» Voilà, donc je trouve ça... en fait, c'est ne pas connaître la réalité.
Sarah, vous avez vous-même vécu donc cette histoire. Vous avez une fille, on a des filles. Quand vous avez fait tout ce chemin au travers des histoires de... ces femmes qui ont été tuées sous le coup de leur conjoint ou leur ex-conjoint, vous vous dites quoi? Quel message est-ce qu'on doit passer pour nos enfants, pour nos filles?
Je pense qu'il faut qu'on apprenne à nos filles à avoir des rêves qui jouent en notre faveur. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'idée de trouver un sens par l'extérieur, plutôt que d'apprendre à se connaître. À connaître. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans l'emprise, les femmes ne savent plus leur goût. Elles ne savent plus qui elles sont. Et la seule façon de sortir de l'emprise, c'est de réapprendre à savoir « mais qu'est-ce qui est moi ? Qu'est-ce qui n'est pas moi ?» Puis d'accepter que tout cela change avec la vie. On est dans un désir de se connaître avec la découverte, avec le fait d'épouser l'autre, de prendre comme ça tout le monde extérieur, alors qu'en réalité, on ne peut se situer dans ce monde que par l'intérieur. Et je crois que de la même façon qu'on devrait faire un enfant que lorsque l'on a trouvé le sens de sa vie et non pas pour trouver un sens à sa vie, tout le reste de notre rôle de femme devrait obéir à cette règle aussi.
Alors je me permets, je vais vous poser la question qui est un petit peu directrice de cette collection des matrices. Vous-même, Sarah Baruch, vous vous sentez aujourd'hui matrice de quoi ? C'est quoi votre rôle à vous ?
J'ai eu l'impression d'être née sur cette terre pour guérir. Et d'ailleurs, je crois qu'à la naissance, j'ai un peu hésité au dernier moment à accepter ce rôle puisque je n'ai pas voulu sortir du ventre de ma mère. J'ai arrêté de m'alimenter quelques mois avant. Enfin, je grossissais plus, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai imposé à ma mère de se reposer, d'arrêter de travailler. Elle en a pleuré. Enfin, voilà, ça a été très dur pour elle. Et puis, je suis née au forceps, donc, d'où la cicatrice que j'ai là. J'ai failli mourir à la naissance parce que je pense que c'est inscrit en nous, le combat qu'on doit mener, et que je devais ressentir que ça n'allait pas être une partie de plaisir, du moins pendant un certain temps, jusqu'à ce que je trouve la force en moi de me guérir et donc de guérir. Voilà ce dont je me sens responsable.
Attention Sarah, je vais vous lancer cette poupée russe. Voilà, vous attrapez cette matrioshka, qu'est-ce que vous voyez dedans ? L'avenir ? Vous voyez quoi ?
Je crois que c'est exactement ce que j'ai envie de dire. On veut découvrir l'avenir, il faut oser regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a le fait de ne plus vouloir m'encombrer d'un héritage qui me pollue. Quand je dis que j'ai réglé les choses, il y a des gens avec qui je refuse d'alimenter des relations. J'ai fait ma part, j'ai eu les discussions que j'avais envie d'avoir, j'ai compris les problématiques, mais je ne peux pas imposer aux autres de faire ce trajet non plus, de faire ce chemin. Et si je veux continuer à avancer, à donner et à aider autour de moi, je ne peux pas me trimballer des boulets, c'est pas pour réduire les autres, mais c'est parce que ça me pèse. Voilà. Et de la même façon, je pense qu'aujourd'hui, mon travail va être dans la légèreté. Ne pas peser sur les autres. La légèreté, ce n'est pas une façon d'être superficielle. C'est d'aider sans peser. Voilà.
Quand on écrit un livre comme celui-ci, que vous venez de faire paraître aux éditions HarperCollins, 125 et des milliers, cet ouvrage collectif qui s'accompagne de tellement de choses autour, puisque je crois savoir que vous lancez aussi bientôt une association, vous enclenchez tout un mouvement. Quelle suite vous imaginez après tout ça ?
De la même façon qu'on a besoin de comprendre l'intégralité d'une situation pour obtenir un jour la paix. Je me suis dit que dans ce livre, déjà, je voulais interroger tous les experts de la chaîne de la violence, qu'on ne peut pas incriminer la police sans savoir comment ça se passe dans un commissariat. Donc le chapitre dont je suis le plus fière est peut-être celui où je raconte mon entretien avec une policière. Et de la même façon, lorsque je suis arrivée à la fin de ce livre, il a été évident pour moi qu'on ne peut pas être une féministe qui se donne pour mission d'arriver à une égalité paisible entre hommes et femmes en excluant les hommes. Donc il y aura un tome 2 à ce livre qui sera l'exploration de la partie masculine de ces sujets.
Merci, merci infiniment Sarah Baruch, c'était absolument passionnant et important de pouvoir partager votre témoignage et vos recherches. Les Matrices, c'est maintenant terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un moment enrichissant qui vous éveille avec Matrioshka dans vos deux oreilles. Merci donc Sarah de nous avoir transmis votre histoire et l'histoire aussi de centaines de femmes victimes de violences, de milliers de femmes, parce que c'est 125 par an, mais c'est des milliers de femmes. Merci pour cet échange plein d'humanité. N'hésitez pas à partager, chers auditeurs, chères auditrices, ce podcast s'il vous a plu. Et puis à regarder, si vous le souhaitez, aussi la version un petit peu plus courte de cet entretien en vidéo sur notre chaîne YouTube Matrioshka ou sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez aussi regarder d'autres entretiens sur la chaîne Matrioshka. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine matrice. Salut, salut. Matrioshka.